Soyez au cœur.
Le monde féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
C'est dans la presse.
Une petite fille camerounaise née à bord d'une embarcation de migrants en Méditerranée le 8 mai 2018 s'est vue octroyer la nationalité espagnole par la justice début juin 2022. La décision vient ratifier un jugement d'un tribunal de première instance en 2021 contesté par l'avocat de l'État qui avait fait appel. Le tribunal de la province de Guipuscoa en Pays Basque indique avoir basé sa décision sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Laisser cette petite fille avec un statut d'apatride l'aurait placée dans une situation d'inégalité par rapport aux autres enfants, explique le tribunal. La mère était parvenue à régulariser sa propre situation, mais on lui avait refusé l'inscription de sa fille à l'état civil, ce qui l'empêchait d'avoir accès à la santé et à l'éducation. Frontline Defenders a décerné le prix pour les défenseurs des droits humains en danger à la militante soudanaise des droits des femmes, Amira Osman Ahmed. La féministe a été arrêtée en 2002 pour avoir porté un pantalon, en 2013 pour avoir refusé de se couvrir les cheveux et en janvier 2022 pour avoir dénoncé le pouvoir militaire du général Abdel Fattah al-Burhan. La loi qui obligeait les femmes à porter un voile et leur interdisait de porter un pantalon en public a été abrogée en 2019 après la destitution du président Omar el-Béchir. Cette loi faisait passer les Soudanaises de victimes à criminels, a déclaré Madame Ahmed. La Rwandaise Salima Mukansanga sera l'une des 6 femmes qui figureront pour la première fois parmi les 105 arbitres de la prochaine Coupe du Monde masculine de football au Qatar. Elle a été désignée parmi les 36 arbitres de champ avec la Française Stéphanie Frappard et la Japonaise Yoshimi Yamashita, indique la FIFA. La Brésilienne Noïsa Bach, la Mexicaine Karen Medina et l'Américaine Catherine Nesbitt officieront comme arbitres assistants. Le président de la commission des arbitres, Pierluigi Collina, a dit espérer que la présence d'arbitres femmes lors de compétitions masculines de haut niveau soit considérée comme la règle plutôt que l'exception. Les organisateurs de Wimbledon ont décidé de ne plus utiliser les qualificatifs mademoiselle ou madame au palmarès du tournoi de tennis. L'Australienne Ashleigh Barty, qui a remporté le tournoi en 2021, était identifiée sous le nom de mademoiselle A. Barty. Il a aussi été décidé de ne plus utiliser le nom de mariage pour les championnes de Wimbledon, une mesure qui s'applique de manière rétroactive. Pour exemple, l'Américaine Chris Evert, nommée sous son nom de naissance lors de sa victoire en 1976, figurait au palmarès de celle de 1981 sous celui de son nouvel époux, le joueur de tennis britannique John Lloyd. Elle apparaît dorénavant au palmarès pour cette année-là sous le nom d'Evert Lloyd. djihadiste américaine accusée d'avoir dirigé un bataillon féminin du groupe État islamique et fomenté des projets d'attentats contre les États-Unis, a plaidé coupable de soutien matériel à une entreprise terroriste. Alison Flukekren, mère de famille de 42 ans, a admis avoir appris à plus de 100 femmes et filles à manier des fusils d'assaut, grenades et ceintures d'explosifs, selon un communiqué du ministère de la Justice. Cette ancienne institutrice radicalisée s'était installée en Égypte en 2008 avec son second mari et deux enfants issus d'un premier mariage. En 2011, la famille est allée en Libye avant de rejoindre la Syrie l'année suivante. Elle était chargée de former un bataillon féminin pour le groupe État islamique, la Katiba Nusaiba, entrée en action début 2017 dans la ville de Raqqa. En Côte d'Ivoire, certains corps de métier, jadis réservés aux hommes, sont maintenant pris d'assaut par la gente féminine. Aujourd'hui, elles sont en effet beaucoup plus nombreuses à braver les préjugés pour se faire une place dans des professions jusqu'ici considérées comme essentiellement masculines. Delphine Bowies est allée à la rencontre de quelques-unes de ces femmes battantes à Abidjan.
Les traditions ne sont plus ce qu'elles étaient puisque beaucoup de femmes ont osé franchir le pas. Nadège Kogui est l'une des rares femmes qui conduit un Gbaka, ces véhicules de transport public qui engorgent les routes d'Abidjan. Elle fait la desserte entre Adjamé, Liberté et Yopougon. Étant femme, pour surmonter toutes les barrières sociales et culturelles, elle a d'abord obtenu le soutien total de ses parents dans sa nouvelle aventure. Assise au volant de son Gbaka, elle est vite devenue l'attraction des passagers. Tout le monde veut monter à bord de son véhicule, les clients apprécient.
Moi, ça me fait plaisir. Dans nos 37 ans,
il faut vraiment promouvoir les dames.
Les femmes sont très prudentes en conduite. C'est ça qui me plaît. Elles font moins d'accidents.
Beaucoup d'autres femmes se sont aussi engouffrées dans la brèche. Zeynabou Sissé conduit un taxi compteur depuis 5 ans. Mère de deux enfants, elle a pu allier sa vie de famille et son travail.
Quand je suis à la maison, je suis une mère au foyer. Bon, quand je suis au travail, c'est le boulot, quoi.
La mécanique est un autre secteur jusque-là entièrement dominé par les hommes. La junte féminine est arrivée là encore à faire bouger les lignes. Aline Roxane Kwame travaille dans un garage de la commune de Makori-Romblay. Depuis 2 ans, elle est la seule femme sur la douzaine d'employés.
J'avais cette passion-là. Pour exercer ce métier, je me suis dit, je peux le faire.
Et elle l'a fait. Elle a trouvé du travail dans un garage, mais se faire accepter et respecter par ses autres collègues, tous des hommes, a été une autre bataille.
Au fur et à mesure, se sont fait les fruits que quand on vient à l'atelier, ils enlèvent côté femme.
Et son superviseur Bini Abou est très satisfait.
Elle est bien, souvent même plus que d'autres garçons.
Aujourd'hui, les femmes sont aussi devenues agents de sécurité privée, communément appelées vigiles. Adira Kone, 22 ans.
Je suis là, ça fait 3 ans. Je ne me sens pas différente au milieu professionnel.
Encore plus rare dans ces milieux prétendument réservés aux hommes, Rachel Omepu exerce le métier de soudeur à la Société internationale de transport africain par rail basée à Abidjan, la Citarail.
Je sais que je travaille ici en wagon plat. Je sens que pour la soudure des pivots, c'est tout au plus 2 heures du temps.
Il y a aussi un point commun entre toutes ces femmes, c'est l'amour et la passion pour leur métier. Nadège Kebeu, au volant de son véhicule, Gbaka.
Je me sens à l'aise.
Zeynabou Sissé est aussi toute heureuse conduisant son taxi à travers Abidjan.
Ça me fait plaisir quand je roule le taxi.
Pour Aline Kwame, mécanicienne, quand on aime, on peut faire bouger toutes les montagne.
Quand tu aimes, il n'y a pas d'obstacle.
Beaucoup de gens vont au travail en se lamentant tout le temps, mais c'est loin d'être le cas pour la vigile Adira Kone.
Je suis fière de moi.
Et pour conclure, le rêve est permis. Nadège Kogwe ne veut nullement s'arrêter en bordure de route avec son Gbaka. Elle veut aller encore plus loin.
Dans la grande compagnie aussi. C'est mon rêve.
Et pourquoi pas avoir un jour sa propre compagnie de transport. Seul le travail et la détermination permettront d'arriver à bout de tous les obstacles. Delphine Bowies, Abidjan pour VOA Afrique.
arrivée au Maroc il y a 9 ans avec son époux Diane Kouadio et la première femme subsaharienne fondatrice et directrice d'une école dans le pays. Emmanuel Mouadjidibay a tendu son micro à cette dame audacieuse, source d'inspiration pour celles qui finiront par réaliser aussi leur rêve un jour.
La journée de travail commence très vite chez Madame Bon. Ses matinées sont bien remplies et gérées de manière méticuleuse afin de pouvoir être à la hauteur de ses responsabilités de fondatrice et directrice d'école.
Je suis très croyante, donc déjà à 4h je fais ma prière et puis de 4h jusqu'à 5h30 voire 6h, voilà, je prépare le petit déjeuner.
Ensuite, elle appelle la secrétaire de l'école pour s'assurer que les deux bus de transport sont bien arrivés à destination avec les enfants, que toutes les éducatrices et les élèves sont présents et que tout se passe bien. Pour concilier ses responsabilités professionnelles et familiales, Madame Pan compte sur le soutien de son époux et de ses enfants. Un soutien familial important qui lui permet de relever les défis quotidiens depuis qu'elle a créé son école il y a 2 ans. Pour arriver à ce niveau, elle a dû mettre de côté sa licence en commerce obtenue en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, pour reprendre au plus bas niveau de l'échelle.
Alors, lorsque je suis arrivée au Maroc, j'ai demandé à travailler. Il y avait 3 propositions qui pouvaient se présenter à nous, soit le call center, soit le travail de ménage ou de nounou. Alors, moi, j'ai choisi d'être femme de ménage parce que je me dis qu'il n'y a pas de sous-métier. Et après, c'est présenté à moi l'opportunité d'être éducatrice. Et parallèlement à ce que je faisais, j'ai suivi des cours pour avoir aussi le diplôme d'éducatrice.
Après avoir longtemps trimé, elle a réussi à créer cette école, la Montagne Blanche, qui embauche aujourd'hui 10 de personnes fières de faire partie du tout premier établissement d'enseignement fondé et dirigé par une subsaharienne.
C'est une école assez spéciale et unique, vu que c'est la première qui existe sur Casablanca.
Léonie Massamba, mère de 2 élèves inscrits ici, vient aujourd'hui récupérer les rapports trimestriels de ses enfants.
Nous sommes hyper satisfaits que nous avons une autre aînée qui a eu beaucoup de lacunes au début. Mais aujourd'hui, il s'exprime. Il n'y a rien de plus beau que de voir son enfant évoluer, s'épanouir dans la société.
Pour Roméo, père d'une élève inscrite aussi à la Montagne Blanche, l'initiative de Madame Ban répond parfaitement à ses attentes.
J'ai vu une annonce sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, bon voilà, je vais aller me renseigner auprès de cet établissement. Et justement, ça tombait pile poil par rapport à ce que je recherchais, cette éducation alliée avec l'éducation marocaine.
L'enseignement et le suivi se font dans le respect des normes édictées par le ministère de l'Éducation du Maroc avec la méthode classique et la méthode Montessori.
La méthode Montessori passe mieux parce que l'enfant, il se rend responsable de l'activité. Il a confiance en soi, il estime de soi et il développe l'autonomie en lui, au fait.
Madame Pan demeure reconnaissante envers son pays d'accueil qui lui a permis de répondre à sa vocation d'éducatrice. Elle a réussi à relever le défi d'être, sans l'avoir voulu, la pionnière subsaharienne dans la création d'écoles au Maroc. Et elle n'entend pas s'arrêter là. Des projets d'extension sont prévus afin d'évoluer vers le primaire et le secondaire.
Si je le pouvais.
Au Cameroun, des élèves s'impliquent dans la sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux par les jeunes scolarisés. Depuis 2021, plusieurs étudiants ont été interpellés par la police et la gendarmerie pour déviance sexuelle, proxénétisme et appartenance à une secte. Un reportage d'Emmanuel Jultap à Yaoundé.
De sources policières et judiciaires, les réseaux sociaux ont toujours été le canal par lequel les jeunes scolarisés constituent des groupes de déviance sexuelle au Cameroun. Steve Samuel Nkotte, secrétaire exécutif de la Fondation d'éducation by Flomic, qui lutte contre l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux en milieu scolaire.
Si les enfants aujourd'hui ont accès facilement aux réseaux sociaux et à des groupes pernicieux, c'est aussi parce qu'il y a un laisser-aller au niveau parental. Donc nous sensibilisons également les parents, notamment à l'occasion des réunions parentales qui se tiennent dans les établissements scolaires, à mieux suivre leurs enfants.
En mars dernier, la police a démantelé un réseau d'une 10 d'élèves mineurs adeptes des pratiques sexuelles déviantes dans un lycée en banlieue de Yaoundé. Grâce à l'ONG Fondation d'éducation d'espérance, des clubs jeunesse scolaire responsables ont été créés dans plusieurs établissements scolaires pour alerter sur l'ampleur du mal. Megan Gassa, élève en classe de terminale. Elle fait partie de ce club au lycée de Ngousso à Yaoundé.
Généralement, j'ai toujours tendance à utiliser WhatsApp pour parler aux jeunes. En fait, que non, on utilise Internet pour faire réellement des recherches, pas pour faire des bêtises en fait. On peut donner un exposé. J'utilise Internet pour me procurer les informations dont j'ai besoin.
Le jeune Ena Zoa est aussi père éducateur au club jeunesse scolaire responsable de son établissement.
À cette fondation, nous organisons souvent des meetings au sein de l'établissement pour parler ensemble avec des élèves. Nous allons souvent dans les rues en sensibilisant.
C'est depuis 3 ans que l'ONG Fondation d'éducation d'espérance s'est engagée dans la lutte contre les déviances qui minent la jeunesse au Cameroun. Manuela Ingodo, responsable de la communication de la dite fondation.
Nous sommes dans toutes les cités où les enfants peuvent se trouver pour porter très haut le message. Il faudrait qu'on protège ces enfants-là. C'est pourquoi notre cible, c'est la jeunesse scolarisée. Parce qu'on suppose qu'ils sont encore récupérables. C'est pourquoi il y a des prises en charge pour des enfants détectés à problème. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus faire l'école. Il y a des formations professionnelles qu'on offre à ces enfants en fonction de leurs aptitudes.
Les pouvoirs publics, pour leur part, appellent à une mobilisation générale pour sortir les jeunes scolarisés du piège des réseaux sociaux. Irène Guélin, ministre des Affaires sociales.
La famille d'abord, parce que c'est la cellule de base de la société pour combattre les mentalités et les coutumes qui favorisent cette pratique. Et aux enfants eux-mêmes, afin qu'ils résistent et dénoncent, qu'ils signalent, qu'ils dénoncent auprès des services sociaux toutes ces pratiques néfastes qui les abusent et les traumatisent à vie.
En avril dernier, au moins 30 élèves du lycée bilingue de Kribi, une cité balnéaire dans le sud du Cameroun, ont été traînés en justice pour pornographie et prosélytisme. Ils tournaient des vidéos, débats sexuels qu'ils revendaient sur les réseaux sociaux. Emmanuel Jontap, Yaoundé, VOA Afrique.
Féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
Du Vivaldi joué par des enfants au marimba, la vidéo a fait le tour du monde. Derrière cette prestation virale, il y a un projet social porté par l'ONG Education Africa qui permet aux jeunes issus de milieux défavorisés de s'émanciper grâce au marimba. Un reportage de Romain Chanson.
À l'heure où les enfants quittent l'école pour rentrer chez eux, certains élèves font le chemin inverse. Rangez les cartables, sortez les marimbas et c'est parti pour une heure de répétition. Nous sommes à l'école Rudy Hoop qui héberge l'un des 19 centres de marimba gérés par l'ONG Education Africa. La professeure Tandeka Dlamini prend sur son temps personnel pour enseigner le marimba à ses adolescents par passion et par nécessité.
I fell in love with the marimbas.
Je suis tombée amoureuse du marimba, c'est ce qui m'a donné envie de l'enseigner. En donnant des cours, je me suis rendu compte qu'un grand nombre d'élèves qui vivent dans les logements informels ont besoin d'être pris en charge après l'école pour rester occupés.
Rigger Park est un township difficile, connu pour ses gangs et sa violence. Les élèves viennent de milieux très défavorisés. Le marimba les aide à sortir de leur environnement.
J'aurais pu tomber dans la drogue, mais à travers le marimba, on vous apprend la détermination à aller au bout de ce que vous faites. Quand je repense à ces 2 dernières années, je me rends compte de l'importance que le marimba a eue sur ma vie.
Because la musique nous rassemble et nous permet de nous apaiser et de passer du bon temps.
Education Africa permet aux élèves de participer à des festivals en Afrique du Sud comme à l'étranger. C'est d'ailleurs lors d'un concert enregistré en 2016 que l'école Rudy Hoop a marqué les esprits. Cette reprise du printemps de Vivaldi est devenue virale sur les réseaux sociaux.
C'était incroyable, on disait aux élèves, vous devenez des stars, c'est super. Personnellement, je trouve ça remarquable d'entendre du Vivaldi jouer dans le township et entendre que sa musique est comprise.
Ces élèves passeront bientôt leurs examens de fin d'année. Et comme beaucoup de jeunes en Afrique du Sud, ils risquent d'être sans emploi après le lycée. Education Africa veut les former pour qu'ils deviennent à leur tour professeurs de marimba et qu'ils fassent de cette passion un métier d'avenir. Romain Chanson pour VOA Afrique, Johannesburg.
Entre parenthèses.
Au Togo, le gouvernement ambitionne de planter 23 millions d'arbres en 2022 pour relever le taux de couverture végétale qui se situe aujourd'hui aux alentours des 24%. L'objectif est de mettre en terre 1 milliard de plants d'ici 2030. Les précisions de notre correspondant à Lomé, Kossi Wousou, sur ce projet qui implique la participation de groupes de femmes pro-environnement.
À la journée de l'arbre instituée depuis 1977, où chaque Togolais est prié de planter au moins un arbre pour lutter contre l'avancée du désert, le gouvernement lui a substitué depuis 2021 la campagne annuelle de reboisement avec pour objectif de planter 1 milliard d'arbres en 2030. Mais après la première expérience, le compte n'y est pas. Folie Bazikatari, ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières.
Pour la campagne 2021, nous avons noté une forte mobilisation de la population. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette mobilisation que nous avons constatée le premier s'est estompée au fur et à mesure qu'on avançait. Nous pouvons vous dire que sur toute l'étendue du territoire, nous avons enregistré 3 333 arbres qui ont été mis en terre uniquement pour la campagne 2021. Et cette année, nous nous sommes dit qu'on pourra aller jusqu'à 23 millions.
Pour atteindre cet objectif, 133 000 hectares de terre ont été mobilisés. Nimon Pacha, le président de l'association des reboiseurs privés du Togo, estime que lui et ses camarades ont un rôle important à jouer pour que le pays retrouve son couvert forestier.
Le ministère de l'Environnement a fait une étude et a prouvé que le reboisement effectué jusqu'à ce temps est à 60 millions d'hectares. Or, dans les 60 millions, il y a 40 millions d'hectares qui sont faits par les planteurs privés que nous sommes. C'est pour ça que nous sommes tous là. Tout le monde est concerné. Aujourd'hui, la gestion durable des forêts n'est pas une affaire d'une seule personne.
La campagne de reboisement est aussi une aubaine pour les femmes qui s'organisent de leur côté pour bien de raisons propres à elles. Brigitte Akakpo Adra de Women Environmental Program.
Nous sommes très engagés au niveau de nos organisations dans les régions et au niveau des préfectures, dans cette noble mission de reboiser 1 milliard de plants d'ici 2030. Les femmes ont opté pour l'agroforesterie parce que ces dernières sont très préoccupées par la dégradation des terres agricoles et donc elles voudraient contribuer dans leur localité à la restauration et à la mise en place des forêts communautaires.
Le gouvernement fait savoir qu'il mettra à contribution les 117 communes du Togo à hauteur de 4 hectares à reboiser par municipalité pour faire progresser substantiellement le couvert végétal au Togo. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.